Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cette fois, c'est parti. Le parti présidentiel français La République En Marche a présenté hier les premiers candidats de sa liste pour les élections européennes. Pour l'instant, et alors que la campagne commence à peine vraiment, la majorité est en tête des intentions de vote devant le Rassemblement National. C'est un vrai bol d'air pour elle, alors que depuis des mois maintenant, rien ne va comme il faut entre la contestation dans la rue des Gilets jaunes, que le gouvernement a du mal à éteindre, et l'affaire Benalla qui provoque une querelle institutionnelle avec le Sénat. La majorité présidentielle peut-elle rebondir grâce aux élections européennes? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Alexandre Holroyd, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député de la troisième circonscription des Français établis hors de France. C'est l'Europe du Nord. Il y a la Scandinavie, les Pays baltes et les îles britanniques. Membre de la commission des affaires européennes, membre de la commission des finances à l'Assemblée et l'un des 10 ambassadeurs du mouvement La République En Marche pour porter l'initiative d'Emmanuel Macron dans le monde. Et Stéphane Vanisch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur associé de communication politique à l'Université Paris-Est Créteil. Alexandre Holroyd, est-ce que vous l'attendiez, cette campagne? Vous l'attendez? Est-ce que c'est une respiration, vu l'ambiance de ces derniers mois, dans la vie politique française?
Vous savez, cette campagne, on l'attend depuis le début, depuis la présidentielle, puisque on est un parti politique, un mouvement politique qui s'est créé, entre autres, autour d'un véritable enthousiasme pour le projet européen et d'une véritable conviction que ce projet européen, il doit être au cœur des préoccupations des Français parce que c'est le seul projet qui peut assurer leur sécurité, qui peut les protéger de façon efficace. Et cette campagne, c'est la première campagne européenne où on doit parler d'Europe et non pas de sujets nationaux. Donc on l'attend avec impatience parce que c'est la démonstration de quelque chose qu'on s'est tous engagés, hein, tous les engagés de La République En Marche, parce qu'on croit beaucoup à l'Europe.
Pardonnez-moi d'insister, mais il y a une petite respiration par rapport à l'affaire Benalla, par rapport aux Gilets jaunes. Excusez-moi, je dois reposer cette question.
Alors reposez-la. Vous savez, je vais vous répondre quelque chose. Je trouve que on pense toujours à la dernière crise comme une crise qui est particulièrement isolée dans l'histoire. La réalité, c'est que l'histoire de la politique, c'est des discussions qui sont solides. C'est la vie politique de notre vie, elle va depuis des années de moments de contestation en moments de contestation. C'est tout à fait naturel dans le cours d'une vie politique. Donc non,
19 semaines de contestation, c'est pas tout à fait naturel non plus quand même.
Il y a eu 19 semaines de contestation, mais en même temps la majorité, vous parliez de la majorité, la majorité, elle continue à travailler pendant ces semaines de contestation. Mmh. Le projet de loi santé, il a été examiné, la taxation des GAFA qu'on examine en ce moment, elle sera examinée la semaine prochaine, la réforme de la fonction publique, pareil, sera examinée. Donc la réalité, c'est que cette majorité, elle est au travail, elle a été au travail depuis 19 semaines. On a d'ailleurs voté des mesures d'urgence à la commission des finances puis après au sein de l'hémicycle en décembre. Cette majorité, elle travaille, elle ne s'est jamais arrêtée de travailler, elle continue son projet de transformation du pays.
Alors Stéphane Vanisch, je me tourne vers vous. Est-ce que vous, en tant que politologue, vous pensez que ça peut être une sorte de respiration dans un moment difficile pour la majorité, ces élections européennes? Même s'il y a une campagne à faire, c'est jamais totalement facile.
Une campagne n'est jamais gagnée à l'avance déjà. Non, le souci c'est qu'en fait, on est dans des systèmes complètement parallèles. C'est-à-dire qu'on a l'avis du parti, LREM et l'avis partisane, entre guillemets, et l'Assemblée nationale fonctionne, etc. Et de l'autre côté, il y a la France. Et c'est ça qui est nouveau, je dirais, par rapport à d'habitude. C'est qu'on a toute une partie de la population française qui ne se sent ni représentée, et surtout ni prise en charge par la présidence, la majorité actuelle, mais la présidence de la République. Et les Gilets jaunes, c'est ça. C'est-à-dire c'est des gens qui ont envie d'exister socialement, qui pour beaucoup d'entre eux voulaient exister politiquement en votant Front National, mais visiblement ce n'est plus suffisant, y compris lié à l'échec en ligne de Marine Le Pen. Et on se retrouve avec un monde parallèle, et c'est ça qui est le plus inquiétant. Donc ça ne va pas empêcher LREM et les autres partis politiques de faire leur campagne électorale. Ça, on voit bien que la confrontation entre progressistes, LREM, nationalistes, Front National est très bien organisée, y compris par Emmanuel Macron, avant les Gilets jaunes, depuis septembre. Donc on a une campagne qui va mettre en évidence une confrontation, je dirais, démocratie-non-démocratie, ce qui est inquiétant pour la suite des événements. Et en fait, on va oublier les Gilets jaunes, on va oublier les autres partis politiques, et on... Le parti, en tant que, pour répondre directement à votre question, LREM a toutes les chances de s'en tirer. Dans quel état va être la France, on n'en sait rien.
Alors, vous le disiez, Alexandre Holroyd, on va parler de thèmes essentiellement européens, de cette fameuse opposition entre progressistes et nationalistes, où on va complètement oublier pendant cette campagne les thèmes franco-français, qui sont quand même assez forts ces dernières semaines dans l'actualité politique.
Non, mais je pense qu'il y a une impossibilité, c'est que les thèmes européens font partie des thèmes français. Ces deux sujets sont indissociables. Aujourd'hui, pour protéger nos concitoyens de façon efficace, il y a, dans certains domaines, des actions à prendre à niveau européen ou des actions qui sont impossibles à prendre à niveau national. On le voit très bien sur l'évasion fiscale. La vraie façon d'être prodigieusement efficace, c'est de le faire à niveau européen. Sur le changement climatique. Le changement climatique, c'est quelque chose qu'il faut faire à l'échelle européenne ou qu'on n'arrivera pas à faire à l'échelle nationale. Et moi, je vous dis ça dans les semaines de contestation, dans les grands débats. Moi, j'ai organisé des grands débats dans ma circonscription. J'en ai organisé un dans le lycée français de ma circonscription. Et ben, les jeunes aujourd'hui français, alors c'est pas forcément des jeunes qui voteront à cette élection, voilà, mais ils ont une ils vraie inquiétude pour le climat. Et cette inquiétude, il faut y répondre au travers des élections européennes, parce que c'est là que s'exercera un vrai mandat pour pouvoir réformer et transformer nos modes de production.
Stéphane Vanisch.
Oui, s'il y a eu un changement avec Emmanuel Macron, c'est sur l'Union européenne, justement. Parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas un candidat qui défendait l'Union européenne, qui défendait l'Europe, notamment pendant l'élection présidentielle, parce qu'on en a beaucoup parlé pendant l'élection présidentielle.
C'est vrai qu'il l'a fait frontalement.
Il l'a fait frontalement, y compris pour mettre en place cette visibilité, moi, ou le Front National. Hein, ça, c'est une première chose. Mais ça, c'est, je dirais, de la tactique de communication politique. Mais en même temps, sur le fond, ben, il a quand même mouillé sa chemise, entre guillemets, il a défendu l'Europe. Et donc ça, c'est intéressant, parce que, pourquoi ? Parce que, en effet, c'est sans doute l'Union européenne, ou en tout cas, peut-être pas l'Union européenne qu'on connaît, mais une Union européenne qui peut être évoluée, qui sera, je dirais, la surface pertinente d'intervention pour les politiques publiques de demain. Et là, les autres hommes politiques, les autres partis politiques, même pro-européens, n'osaient plus dire cela, je dirais, auprès du grand public. Et du coup, l'Union européenne est devenue le bouc émissaire de tous les problèmes franco-français, ou les problèmes autres, etc. Alors, c'est vrai que l'Union européenne a, comme dirais-je, quelques, entre la bureaucratie Union européenne, quelques, comment dirais-je, directives, etc. On peut penser que ça pourrait évoluer, on peut penser que c'était pas du tout à l'écoute des peuples, mais en même temps, face à la mondialisation, face à la Chine, on vient de se rendre compte que la Chine est un véritable concurrent maintenant, il serait temps, face au continent américain ou à l'africain, il faut un continent européen organisé, et c'est vrai que les hommes politiques français n'ont pas assez développé, et du coup, l'Union européenne est fragilisée, et surtout, l'abstention va être énorme. Et ça, c'est un vrai problème.
Alexandre Leroyd, il va y avoir 79 noms sur la liste de votre parti, de tous les partis d'ailleurs, et on n'en a pas tout à fait la moitié. On a 30 qui ont été présentés hier à 2 mois de l'échéance. C'est difficile de trouver des candidats, ou c'est difficile de les classer dans la liste? C'est pourquoi on en est encore là? C'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de partis. Hein.
Je ne pense pas que c'est difficile de trouver des candidats, mais je pense que c'est une décision importante. Il faut qu'on sache quelque chose, c'est qu'un parlementaire européen, c'est quelqu'un de très important. Et ça, c'est une chose que, objectivement, la France a oublié de prendre au sérieux dans les élections précédentes. Que ça soit les partis principaux qui envoyaient les recyclés de la politique nationale, ou que ça soit des partis qui envoyaient des gens qui n'étaient jamais à Bruxelles pour travailler et qui ne défendaient pas les intérêts de la France à Bruxelles. Or, c'est à l'échelle européenne que se font aujourd'hui beaucoup de régulations et directives qui protègent nos compatriotes. Donc, cette liste, il faut y réfléchir, il faut la pondérer. Il y a évidemment des considérations politiques, bien sûr. Il y a des réflexions sur, il faut qu'elle soit représentative de notre mouvement, plurielle comme notre mouvement, et en même temps que des valeurs qui sont le cœur de notre mouvement soient partagées. Mais surtout, c'est une réflexion pour avoir des gens à Bruxelles qui peuvent enfin peser pour défendre nos intérêts français à Bruxelles. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que les anciens partis politiques ne prennent pas cette élection au sérieux.
L'ancien ministre italien Sandro Gozi est 26e sur cette liste. Est-ce que ça veut dire qu'on a renoncé de votre côté à mettre en valeur le côté liste transnationale?
Ah non, nous on s'est battu pour que des listes transnationales soient mises en place jusqu'au bout. C'est le PPE européen, c'est-à-dire le Parti Populaire Européen. Alors je vais pas entrer dans la technique, mais en gros c'est la droite, c'est le centre-droit, les chrétiens démocrates européens, qui après avoir soutenu cette initiative, quand ils se sont rendus compte que nous on la soutenait également, ont voté contre. C'est une absurdité qui est absolument typique de ce qu'est la politique européenne qui est aujourd'hui menée par les Républicains à Bruxelles, où on dit quelque chose nationalement, on fait le contraire absolu à Bruxelles, et on n'a pas trop de comptes à rendre à nos électeurs, parce que de toute façon, on essaie de les énoyer le plus possible des sujets européens.
Stéphane Vanisch, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus?
Oui, le problème de l'élection européenne, c'est le scrutin de liste. C'est-à-dire qu'on a un recyclage, en effet, de beaucoup d'hommes politiques jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, les élections de l'Union européenne, le Parlement n'avait pas de pouvoir. du tout. Donc du coup, c'était que de la représentation symbolique. Puis à un moment donné, le Parlement a de plus en plus de pouvoir, même si en ce moment ça s'est un peu arrêté. Et on a quand même maintenant des députés qui sont utiles. Et le problème de les élections européennes, c'est le grand défoulement. C'est-à-dire que c'est au moment de l'Union, des élections européennes ou au moment des régionales, que les nouveaux partis politiques existent, le Front National par exemple, les écologistes pour les régionales de 92. C'est-à-dire on a des moments névralgiques parce que comme on a l'impression que c'est une élection sans importance, eh ben un, on va pas voter, et deux, on va voter un peu n'importe quoi. Et là, peut-être cette fois-ci, on s'aperçoit d'abord qu'il n'y a pas beaucoup plus de, comment dirais-je, de mobilisation dans les sondages, en tout cas pour l'instant, mais par contre les Français savent qu'il ne faut pas voter n'importe comment aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que un parlementaire européen commence à compter dans la définition des politiques publiques européennes.
Alexandre Holroyd, de Stéphane Vanisch le disait à l'instant, les élections européennes sont un scrutin qui, traditionnellement, ne mobilise pas vraiment les électeurs. Ça avantage qui, selon vous ?
Vous savez, moi, ça avantage personne. Une élection où les gens ne se mobilisent pas, c'est une faillite collective de la société. Et notre défi, c'est de faire en sorte que ces élections deviennent des élections centrales dans la vie des Français et dans la vie des Européens. Et le scrutin de liste, je veux juste revenir, en France, on a une certaine action, mais la réalité, c'est que ce scrutin de liste, il existe dans beaucoup d'autres pays aussi. Bon, après, il y a une idée de relation avec notre culture politique. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup des mots dont nous, collectivement, tendons à accuser l'Europe, ne se retrouvent pas dans d'autres pays. Je vous donne un exemple, moi. Moi, je représente l'Europe du Nord. Je représente l'Europe du Nord. La transition écologique. On est en permanence en train de dire on ne peut pas la faire pour des contraintes budgétaires. Moi, je regarde des pays comme le Danemark ou la Suède, qui sont à la pointe de la transition écologique. Ils l'ont fait dans les mêmes contraintes que nous. Ils ont des budgets et des déficits qui sont bien plus équilibrés.
Excusez-moi, Stéphane Vanisch.
Je voulais revenir sur ce que vous dites tout à l'heure, sur, en effet, on est une monarchie républicaine. Donc, on n'a pas de scrutin de liste, on a un rapport toujours direct avec le peuple. Parce que si on était dans les pays que vous couvrez, d'ailleurs, dans votre circonscription, ça fait très longtemps que, par exemple, Castaner serait démissionné. Ou aurait démissionné lui-même, vu ce qu'on a pu voir sur Internet, dans la boîte de nuit. Et même un président qui serait Premier ministre aussi. Il faut beaucoup moins que ça. Sachez que dans vos pays que vous suivez, un ministre qui prend sur sa propre carte, sur la carte bleue de son ministère, d'une table ronde, voilà.
Mais c'est pas une boîte de nuit. Hein.
Enfin, bon, non, mais boîte de nuit, c'est pire.
La carte bleue du ministère pour payer des shots en boîte, ça serait
compliqué. On n'a pas à vérifier ça parce que on a une certaine permissivité, on a une vision monarchique de la politique. 19 semaines de turbulences et pas des petites. Aucun pays anglo-saxon garderait son premier ministre. Donc, si vous voulez, on a une spécificité française qu'il faut bien prendre en compte, parce que si vous trouvez que le scrutin de liste c'est très bien, et pourquoi pas, moi j'ai rien contre, ben ça va avec le reste. C'est-à-dire qu'on est un système démocratique beaucoup plus fort que ce que l'on est en France. Et là, ce que nous montre Emmanuel Macron et le Premier ministre, on n'est pas dans une écoute, un rapport à la population, pas au peuple, j'aime pas ce mot, mais par rapport à la population, j'irais d'une manière très démocratique. Et donc, je pense que si on veut faire évoluer les mentalités françaises, y compris pour avoir une Europe plus unifiée entre guillemets, mais il faut aussi faire évoluer les pratiques politiques à l'intérieur du pays. Et là, je trouve que là, on est dans un conservatisme de la monarchie républicaine très très forte. Et là, il y a une réflexion, à mon avis, de votre part, à développer pour faire évoluer la démocratie française qui, aujourd'hui, est grippée complètement.
Alexandre Leroy, de répondre.
Oui, alors, écoutez, je vais être tout à fait sérieux avec vous. De savoir si ça devrait être un scrutin de liste ou non, c'est pas mon combat aujourd'hui. Mon combat, c'est de dire, cette élection, elle est primordiale pour l'avenir des Français. Vous savez, moi, j'ai une circonscription où il y a un pays qui sort de l'Union européenne. Et quand je vais et je vois des électeurs, j'ai des électeurs qui viennent me voir et qui me disent « Je suis angoissé parce que je sais pas si j'ai une maladie chronique, je sais pas si j'aurai accès à la sécurité sociale. » Ça, c'est la citoyenneté européenne qui protégeait ce droit avant. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Cette question, elle se pose. Cette question, elle devrait jamais se poser. Et c'est l'Union européenne qui l'a garantie. Et la réalité, aujourd'hui, c'est qu'on prend tous ces acquis, qui sont des acquis du droit européen, à commencer par la paix, mais qui se déclinent dans la vie quotidienne des gens. Et on refuse, ou on a refusé dans les dernières années, de voir que c'est l'Union européenne qui nous les garantit. Le scrutin, l'importance de ce scrutin, c'est parce que l'Union européenne, elle est centrale pour notre prospérité et pour la protection de nos concitoyens. Et il faut impérativement que les Français s'en rendent compte, et après qu'ils aillent voter en grand nombre. Après que le mode de scrutin, ça je laisse des politologues bien plus éminents que moi en discuter.
Je fais appel justement aux politologues que vous êtes, Stéphane Vanisch. La majorité a pris des coups depuis des mois et la cote du président a chuté avant de remonter. Comment est-ce qu'on explique ce score de 23-24% actuellement à deux mois d'élection dans les intentions de vote?
Parce qu'il n'y a pas trop le choix. En fait, l'élection d'Emmanuel Macron, c'est aussi le dégagisme à la française. C'est pas pour amour pour Emmanuel Macron, même candidat avant l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on a un problème tout simplement de crédibilité de l'ensemble des partis politiques, y compris démocratiques, ce qui pose un problème pour le Parti Socialiste, mais aussi pour les Républicains, puisque les Républicains, M. Wauquiez a une drôle d'idée, c'est au lieu d'être l'alternative démocratique à l'échec d'Emmanuel Macron, potentiel, et il a voulu faire une concurrence au Front National, y compris par sa phraséologie. Du coup, il s'est mis en dehors du champ, je dirais, des possibles pour lui. Et donc, on se retrouve avec des Républicains qui sont, bon, à 14%, donc c'est pas si mal, mais on était à 20% sous Fillon, on était dans le parti, Sarkozy était président de la République. On s'aperçoit que les deux partis de gouvernement traditionnels sont en train de chuter par manque de crédibilité et de remise en cause en interne. Emmanuel Macron a fait une OPA sur ça, de manière magistrale à la présidentielle. Et le problème pour Emmanuel Macron, c'est d'avoir un parti politique qui ne soit pas simplement pour lui, mais qui soit, qui tienne dans la durée, y compris pour les municipales. D'où l'importance pour les LREM d'avoir un bon score. Et en fait, c'est les seuls crédibles démocratiquement parlant. Autrement, c'est une alternative FN ou Macron.
Est-ce que le match majorité Rassemblement National reprend en fait là où le match Macron-Le Pen s'était arrêté, Alexandre Holroyd?
Non mais écoutez, la réalité aujourd'hui, c'est que quelle liste et quel mouvement politique est cohérent, crédible et compétent? C'est la liste à LREM. Je suis désolé, sur les sujets européens, on a vu au dernier débat de la présidentielle que le Front National ne prenait pas au sérieux des questions fondamentales. On a vu ça sur l'euro. L'euro, c'est quand même l'épargne des Français, c'est quand même la monnaie avec laquelle ils payent tous les jours. Et pourtant, on a le Front National qui ne sait pas s'ils sont pas trop, ils sont pas trop sûrs s'ils sont pour ou contre. On se demande s'ils savent précisément ce que c'est. Donc la compétence, elle n'est pas là. Et ce manque de compétence, il s'exprime depuis 5 ans au Parlement européen avec des députés qui ne sont jamais là et qui ne font absolument rien pour défendre les Français et les intérêts français. La cohérence, est-ce qu'il y a un groupe, un mouvement politique qui, depuis maintenant 2 ans et demi, dit une chose, la même chose, et qui a un discours cohérent sur l'Europe clairement identifiable? Non. La réalité, c'est que les autres partis politiques, que ça soit la liste PS, que ça soit la liste Républicain, n'ont pas de ligne sur l'Europe. Ils sont pas d'accord entre eux. Je le vois tous les jours à l'Assemblée, hein. Moi, vous prenez des députés éminents d'ailleurs, mais un député comme Julien Aubert qui se lève, il a une vue, mais parfaitement perpendiculaire à un député comme Damien Abad sur l'Europe. Mmh. Soyons honnêtes, c'est très clair. Cette réalité, elle n'existe pas à l'ARM. On est cohérent, on est compétent. Et on est crédible.
Il y a un paradoxe, Stéphane Vanisch, c'est que les élections intermédiaires, et en particulier les européennes, ne sont généralement pas favorables au pouvoir en place. Et pourtant, eh bien, la majorité, dans les sondages pour l'instant, il y a 2 mois de campagne qui arrivent, hein, et il peut se passer beaucoup de choses, la majorité est devant.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, il faut faire attention. On peut avoir une option que le Front National soit devant, parce que souvent c'est un peu minoré, donc il faut faire attention. En revanche, c'est évident qu'il y a 2 blocs, et les 2 blocs, en fait, les élections européennes, c'est celui qui sait mobiliser son camp qui gagne. Et donc on a 2 sortes de gens mobilisés. Il y a ceux qui sont, je dirais, très motivés, y compris dans leur existence sociale, pour voter Front National. Donc les électeurs FN, c'est un électeur qui ne s'abstient pas, ils vont voter. Penser que parce que c'est un vote peu intéressant, les électeurs FN ne vont pas voter, si, ils vont venir voter. Et puis le deuxième, c'est pour des raisons sociologiques, l'électorat LRM, c'est quoi? C'est les plus diplômés, plutôt âgés, plutôt en centre-ville. Bref, c'est ceux qui vont toujours voter également. Et donc, c'est un peu logique d'avoir, je dirais, les 2 sociologies de ces partis-là être en tête à cause de l'abstention énorme que l'on va avoir. On va avoir 40-45% de participation. Et du coup, les autres partis politiques, notamment les Verts, où c'est très fragile parce que c'est pas évident qu'ils trouvent la réalité dans les sondages, dans les urnes, dans les sondages, vont être derrière tout simplement parce que la mobilisation des électorats, c'est ce qui compte le plus dans cette élection.
Il nous reste très peu de temps, Alexandre Holroyd, les autres partis sont à la traîne, vous l'avez dit, pour La République En Marche, c'est une occasion d'enfoncer le clou, y compris à droite, de ce qui s'est passé à la première séquence électorale.
Alors je veux juste rejoindre, il y a une grande leçon à voir dans la démocratie, c'est l'humilité. Je ne dis pas que les autres partis sont à la traîne, je dis que notre liste est plus cohérente, plus crédible. Mmh. Je ne dis pas que les autres partis sont à la traîne, et moi je vais vous dire une chose, dans les semaines qui suivent, moi je vais avoir une logique beaucoup plus simple que la vôtre. Je vais aller voir chaque électeur, quel qu'il soit, où qu'il soit, pour essayer de le convaincre de voter. Ça m'est parfaitement égal, son âge, sa condition sociale, son niveau de diplôme, parfaitement égal, il faut convaincre chacun d'aller voter.
Merci Alexandre Holroyd, merci à vous Stéphane Vanisch d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.